I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il est quasiment 22h30. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Et en disant bonsoir, j'ai une pensée toute particulière pour Frédéric Mitterrand, dont on a appris la mort en début de soirée. Ce bonsoir, vous le savez, était un peu sa marque de fabrique si reconnaissable. Homme de télé, de théâtre, écrivain. Il a été aussi ministre de la Culture dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Frédéric Mitterrand avait 76 ans. On va lui rendre hommage ce soir dans Soir Info avec mes invités. Et je vous présente Alexandre Devecchio qui est avec nous.
Bonsoir.
Journaliste, soyez le bienvenu. Oui, on peut dire bonsoir, effectivement, en pensant à Frédéric Mitterrand. Éric Tegner, directeur de rédaction Livre Noir. Bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Nathan Devers, écrivain.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir. Yoann Usaï, bonsoir aussi.
Bonsoir.
Et j'accueille avec beaucoup de plaisir également Jean-Christophe Florentin, qui est le directeur de la revue Playboy. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un hasard, puisque la dernière très longue interview accordée à un quotidien, un hebdomadaire, c'était chez vous. On va longuement en parler, évidemment, avec vous. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Karima Brick, une fidèle de cette émission, évidemment. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez, on va commencer par évidemment cette information avant de faire un retour sur la vie de Frédéric Mitterrand. Petit tour de table. Quelle image retenez-vous de cet homme? Je commence par vous, Alexandre. En quelques mots.
Hein. Je ne sais pas si c'est une image en particulier, mais quelqu'un qui avait l'air d'être quelqu'un d'empathique, de sympathique, de généreux et de cultivé. Je crois, qui a été effectivement ministre de la Culture. Je ne sais pas si c'est ce qu'on retiendra le plus, mais en tout cas, un homme de télé qui s'exprimait très bien à la télé, qui a su faire partager surtout ses passions. C'est peut-être ça.
Allez, c'est quelques mots. On va y revenir évidemment sur ce parcours. Éric, en deux mots, vraiment deux mots.
Moi, je pense que... Alors, je suis assez gêné parce qu'en fait, effectivement, on ne peut pas critiquer les morts. C'est toujours quelque chose, donc...
Ce n'est pas le moment.
Bien entendu, mais pour moi, c'est... Voilà, j'ai pas... Sauf si on peut avoir un peu plus de temps pour développer, mais
on va consacrer pas mal de temps, effectivement, à Frédéric Mitterrand. Nathan Devers, deux mots.
Alors, deux mots, je pense que le mot de passionné était bon. Je pense que le mot de cultivé était bon. J'ai l'impression, je ne le connaissais pas personnellement, mais je pense que c'était un homme souffrant aussi, qui a eu une existence avec des souffrances intérieures, qu'il a sublimé aussi, mais c'est l'impression que j'ai eue de lui.
Karima.
Moi, c'est le parcours justement assez éclectique. Oui, tourné vers les arts, vers la culture, le cinéma, la télévision. Quand on regarde sa bibliographie aussi, tous les livres qu'il a écrits. Donc vraiment, ce parcours. Et oui, ce côté intime aussi qu'on devine et qu'on a vu aussi dans certains de ses bouquins. Mais je dirais, ces personnalités peut-être un peu hors normes qu'on retrouve moins peut-être aujourd'hui dans l'univers politique. Et c'est pour ça
qu'on en parlera.
C'est ça pendant quelques années. Donc on pourra en débattre.
Jean-Christophe. Également, même exercice.
Alors, quelqu'un qui savait, à mon avis, tout sur tout, donc c'est ce qui n'est pas donné à tout le monde, et quelqu'un de très, très paradoxal, puisque quand on l'a sollicité pour venir s'exprimer dans Playboy, il a commencé par dire non, il l'a acheté, il l'a étudié, il nous a écrit que notre journal était une horreur, mais que c'était une horreur tellement extraordinaire et raffinée que finalement il acceptait.
Yoann, en tant que fin observateur de la vie politique.
Rapidement, je crois que c'est un homme qui a eu du mal à assumer qui il était réellement et à assumer cet héritage familial, je dirais.
Voilà, eh bien, on va détailler tout ça et ce parcours de vie. Mais tout d'abord, on voit justement ce parcours de vie avec Mathilde Ibanez.
Bonsoir. Jean-Luc Godard est bel et bien devenu une vache sacrée.
Frédéric Mitterrand est reconnaissable entre tous, avec son timbre de voix si particulier.
Je voyage dans un continent immense et mystérieux qui s'appelle le
cinéma. Né en 1947, c'est avant tout un passionné de cinéma. Un monde qu'il découvre à 13 ans.
Les producteurs, les appartements des vedettes, les endroits où se trament tous les coups qui permettent de faire des films.
À 24 ans, après des études de géographie et de sciences politiques, il rachète un cinéma, puis un deuxième, puis une dizaine dans lesquels il propose de nombreux films indépendants. Ouvertement homosexuel, il produit en 1981 son tout premier documentaire, Lettres d'amour en Somalie.
Je sais que tout seul dans mon coin, je n'aurais pas pu faire des films. J'aurais eu trop de tentations ailleurs. Donc je me suis attelé à la tâche de faire fonctionner les cinémas olympiques, de les développer.
Aujourd'hui, en parallèle, il devient un homme de télévision. Mais là aussi, son domaine de prédilection, c'est le 7e art. Il réalise également des documentaires et historiques comme Mémoire d'exil en 1999.
Les Romanov sont venus du monde entier. Beaucoup ne se connaissaient pas.
Fasciné par le général de Gaulle, il soutient presque par obligation familiale son oncle François Mitterrand. Mais en 2009, c'est dans un gouvernement de droite qu'il est nommé. Il devient ministre de la Culture de François Fillon et n'hésite pas à se mettre en scène.
Le slam est pour moi comme un cheval de Troie qui passe en contrebande mille moments d'émoi.
La vie de Frédéric Mitterrand, c'est aussi des polémiques pour son soutien à Roman Polanski, accusé de viol sur mineur en 2009, mais aussi pour son livre La mauvaise vie, publié en 2005. Ses passages sur les relations tarifées avec de jeunes garçons thaïlandais ont suscité de nombreuses polémiques et poussent l'intellectuel à condamner publiquement la pédophilie et le tourisme sexuel. Personnalité complexe, Frédéric Mitterrand aura marqué pendant plusieurs décennies l'audiovisuel français.
Donc je le disais, homme de télé, évidemment, avec son fameux Bonsoir, écrivain, homme de théâtre, de cinéma, et aussi, il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Écoutez la réaction de Nicolas Sarkozy, qui était l'invité de Pascal Praud tout à l'heure dans l'Heure des Pros.
C'est quelqu'un que, et Carla et moi, nous aimions beaucoup. Nous le connaissions bien. Je l'avais choisi comme ministre de la Culture, et il m'avait fait une petite blague, puisqu'il avait cru bon, le pauvre, tellement enthousiaste. Et là où il est, je lui adresse une pensée très affectueuse. Figurez-vous qu'il m'avait annoncé sa nomination lui-même 24 heures avant que le gouvernement ne fût connu. Ce qui avait provoqué une belle polémique, comme le milieu politique français les adore. Je ne lui en avais pas voulu, parce que j'avais mis cela sous le compte de l'inexpérience et de l'enthousiasme, parce que Frédéric était avant tout quelqu'un de cultivé et d'enthousiaste. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un quand il est tellement heureux d'être nommé.
Alors Yann Hussaï, la petite histoire dit que c'est Carla Bruni qui a glissé un peu le nom à Nicolas Sarkozy, parce qu'on a beaucoup parlé de prise de guerre, mais c'est vrai, ça vous confirmez ou pas?
Oui, il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Ouais. D'abord, oui, c'est vrai que Carla Bruni a milité, entre guillemets, auprès du président Sarkozy pour nommer Frédéric Mitterrand au ministère de la Culture. Quelque part, ça l'arrangeait parce qu'il dit dans cet extrait, il l'a dit tout à l'heure à Pascal Praud, c'était une prise de guerre, parce que considéré évidemment comme un homme de gauche, mais la réalité est plus complexe que ça. On l'a vu dans le reportage, on l'a entendu, en tout cas, c'était avant tout un gaulliste, et il a mis longtemps à assumer cela, évidemment, compte tenu de son histoire familiale, compte tenu que son oncle, le président Mitterrand, a été un adversaire farouche du général de Gaulle. Il a appelé, je vous le rappelle, en 1995 à voter pour Jacques Chirac et non pas pour Lionel Jospin. En 2007, il n'appelle pas à voter pour Ségolène Royal. Donc c'était, me semble-t-il, davantage un homme de droite, ou en tout cas de centre-droit, plutôt qu'un homme de gauche. Le président Sarkozy dit aussi il était très heureux d'être nommé à ce ministère. Évidemment, j'imagine que quand on vous appelle pour devenir ministre, il y a un sentiment de joie qui vous envahit. C'est quelque chose qu'on ne refuse pas. Mais il a toujours dit par la suite que ça n'avait pas été une période très heureuse de sa vie, parce que manifestement, il disait qu'il n'aimait pas tellement les courtisans, qu'il avait eu du mal à avoir un budget à la hauteur de son ministère, qu'il avait eu du mal à faire rayonner ce ministère compte tenu du manque de moyens. Donc je ne crois pas qu'il ait gardé un bon souvenir de son passage à ce ministère, même si évidemment c'est ce qu'on retient de lui aujourd'hui.
Alexandre, quel regard portez-vous sur l'homme ministre de la Culture? Est-ce que ça a été, selon vous, en tant que fin observateur de la vie politique, un bon ministre de la Culture?
Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément ce qu'on retient le plus de lui. Le passage a été éphémère, il s'est mal fini, parce qu'effectivement, il y a eu le rappel de ce livre, La mauvaise vie, avec les controverses autour des relations qu'il aurait pu avoir avec de jeunes garçons. Lui se défendait, que ce soit des mineurs, mais il y a eu cette controverse effectivement qui a un peu entaché sa période politique. Donc moi je le retiens plutôt le passeur, effectivement, le passionné. Je crois que Nicolas Sarkozy a parlé de manière juste quand il parlait de quelqu'un d'enthousiaste. C'est vrai qu'il donnait envie d'aimer les films qu'il aimait lui-même d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il a fait un travail de transmission intéressant. C'est aussi l'homme d'une époque, quand je regardais votre reportage. C'est l'époque de mon enfance, la fin des années Mitterrand, puis les années Chirac, Sarkozy, l'époque où il y avait encore la droite, la gauche, une certaine forme de consanguinité peut-être aussi. Donc c'est une époque peut-être qui s'achève aujourd'hui. Et j'ai simplement envie de dire paix à son âme, parce qu'effectivement, on ne dit pas de mal des morts.
Évidemment. Johan.
Un mot peut-être pour répondre à Alexandre. Il n'a pas été un ministre de la culture éphémère. C'est le ministre qui est resté en place le plus longtemps depuis Jack Lang. Donc c'est quelqu'un qui est resté en poste assez longtemps, rue de Valois, si on le compare à ses prédécesseurs et même à ses successeurs.
Jean-Christophe.
Parmi les confidences qu'il nous livre dans cet excellent numéro de Playboy, on vend partout, il y en a deux qui sont intéressantes. Il a gardé un bon souvenir, nous disait-il, de son passage rue de Valois au ministère, où il a fait avancer pas mal de dossiers, notamment, pas des moindres, comme la Philharmonie, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont il est fier. Il a pu faciliter beaucoup de projets. Il a connu un moment de lumière, et comme il était tiraillé entre le côté dark qu'il habitait très profondément et cette lumière, il n'a pas pu s'empêcher effectivement de ressentir la mauvaise vie, comme pour évidemment pour aller vers un suicide. Et quand on lui demandait s'il était Mitterrandolâtre, sa réponse était non. C'était pas François Mitterrand qu'il admirait le plus dans sa famille. Il nous dit dans quelqu'un d'un autre Mitterrand.
Nathan, qu'est-ce que vous retenez de l'homme ministre de la Culture, vous l'écrivain ?
Je pense que Frédéric Mitterrand, peut-être un mot aussi qui peut le définir, c'est peut-être le mot de dandy. Il incarnait...
Aussi, c'est vrai, j'aurais pu utiliser ce terme-là en le présentant.
Oui, mais dans ce que vous avez décrit, tous les pans de son existence, ça fait partie des gens, à mon avis, qui concevaient l'existence comme une œuvre d'art. C'est ça le dandysme. Le dandysme, c'est pas des propriétés superficielles, et la mondanité, c'est pas ça du tout. Le dandysme, c'est l'idéal baudelairien de dire la vie est une création esthétique avec ce côté dark que vous avez dit, qui est évidemment très important.
Oui, vous racontez la factory, on dit Warhol, des films porno,
voilà, bien sûr.
Participer, enfin des trucs vraiment étonnants.
Oui, et les souffrances aussi, la difficulté à s'assumer tel qu'il était, mais tout ça sublimé dans quelque chose d'esthétique. Je pense que c'est quelque chose qui le définit assez bien et qui explique peut-être aussi son ouverture d'esprit, son côté non sectaire, son refus, son mépris, l'impression qu'il dégageait. C'était, je pense qu'il avait une forme de mépris envers le monde politicien, avec ses chapelles, avec ses dogmes, avec ses clans, avec ses tribus, et qu'il était un petit peu, si vous voulez, c'est pas tellement au-dessus de la mêlée, mais en tout cas prêt à discuter
c'est
avec tout le monde.
C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Frédéric Mitterrand au sein du Conseil des ministres.
Voilà.
Une certaine solennité. Oui. Alexandre, vous vouliez...
Oui, je voulais rajouter quelque chose que j'avais oublié. C'est en écoutant, ça me paraît assez juste, l'idée du dandysme, que ce qu'on peut louer, c'est déjà que c'était un ministre de la culture cultivée, c'est pas toujours le cas, et surtout il n'était pas woke. C'est aussi une autre époque qui avait ses défauts, mais c'était une époque où il y avait une certaine liberté. Je pense qu'il incarnait une certaine liberté intellectuelle, et il défendait la culture au sens large et pas certains dogmes, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, c'est assez rafraîchissant par rapport effectivement à notre époque qui veut faire de l'idéologie plutôt que de la culture. La culture, c'est d'abord de l'émotion, je dirais, de l'esthétique, justement. Et en cela, il incarnait bien le ministère de la Culture.
Éric Tegner.
Après, je pense aussi que d'un côté, effectivement, il est décédé ce soir, donc c'est compliqué de faire le bilan. En même temps, il a choisi aussi de se lancer dans la vie politique en 2009, en acceptant du coup de devenir ministre de la Culture, en ayant vraiment aussi une empreinte sur la vie politique. Donc c'est quand même important de faire le bilan là-dessus. Moi, je pense malgré tout que Frédéric Mitterrand incarnait quand même ce qu'on reproche en permanence sur ces plateaux de télévision aussi de ce qui s'est passé lorsque la droite était au pouvoir sous Nicolas Sarkozy, il faut le dire, c'est-à-dire quand même cet abandon de la culture à la gauche, on le voit aujourd'hui, on se retrouve avec un Emmanuel Macron qui a été élu par la gauche, qui met une Rachida Dati. Je pense que beaucoup de spectateurs aussi, beaucoup de Français ce soir n'ont pas forcément une bonne opinion. Et je pense qu'il y a un point qui est important, que je voulais souligner sans aller plus là-dedans. Moi, je suis malgré tout assez mal à l'aise avec le fait de forcément rendre hommage à tout le monde. Mmh. Je fais partie d'une jeune génération. Vous savez, on voit toujours cette jeune génération actuelle qui s'est levée par rapport au MeToo.
Je vous interromps deux secondes. Je vous redonnerai la parole. Mais est-ce que nous sommes avec priorité aux témoignages, évidemment, et aux hommages. Mais je vous redonne la parole, c'est promis. Nous sommes avec Michel Cotta, journaliste que tout le monde connaît. Bonsoir Michel, je suis ravi de vous accueillir. Bonsoir. Au sein de cette soirée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Que retenez-vous de l'homme, Frédéric Mitterrand, ma chère Michel?
Ben, je retiens au moins deux aspects. L'aspect saltimbanque, comme on peut dire, c'est-à-dire celui qui était fasciné par le cinéma, par les arts, qui avait acquis des salles de cinéma, qui avait essayé de les faire marcher. Et puis finalement, ben, je me rappellerai toujours, comme toute une génération, la fameuse émission Le cinéma de minuit, où Destin, après, où il faisait des portraits avec sa voix incroyable, très imité par les humoristes d'ailleurs, mais où on entendait bonsoir, il y avait un bonsoir magique.
Bonsoir.
De Mitterrand. Et puis après, je n'ai jamais considéré que ce soit un homme politique au sens du mot. Il avait bien adhéré au Parti radical à un moment donné, il avait bien soutenu Jacques Chirac en 1995, mais ça n'était pas un homme politique. Il faisait ça au fond pour affirmer sa liberté de penser, et dans une famille, on le lui accordait. Mais ça n'était pas un homme politique, au fond, c'était une prise de guerre pour Nicolas Sarkozy.
C'était une prise de guerre, selon vous. Il n'était pas si proche que ça de son oncle, en fait, Michel.
Il n'était pas loin, il n'était pas hostile à son oncle. Mais vous savez, c'est difficile de s'appeler Frédéric Mitterrand quand vous naissez le jour où François Mitterrand entre pour la première fois au gouvernement. Après, il faut essayer d'exister contre ça. Et au fond, ça a été son problème longtemps, ça a été d'exister. Mais il n'était pas prêt, mais pas loin. C'est une famille qui se voyait souvent. Mais qui étaient très libres entre elles. Et après tout, le général Mitterrand, qui était le frère aîné de François Mitterrand, n'avait pas du tout les mêmes opinions, ni que Robert Mitterrand, qui pourtant était très proche de son frère. Chacun était libre. Au fond, il l'a manifesté à sa manière, et d'une manière que je trouve à la fois libre, décontractée et intelligente.
Vous qui connaissez par cœur notre monde politique, comment vous l'avez jugé? Puisque vous avez dit que ce n'était pas un homme politique. Comment vous le jugez en tant que ministre de la Culture, Michel?
Bah, écoutez, finalement, chacun sait que c'est un ministère très difficile, surtout que c'est un ministère qui a été marqué deux fois sous la 4e et la 5e République, un par Malraux et deux par Jacques Lang. Donc c'est très difficile d'être ministre de la Culture. Alors, on sait très bien qu'il y a des syndicats très puissants, qu'il faut répondre, qu'il faut parlementer, qu'il y a beaucoup de réunions, mais il échappait à tout ça, franchement, avec une vraie grâce. Moi, je me rappelle être allé lui parler de problèmes de télévision quand j'étais à TF1, plus tard, peu importe, j'ai parlé de problèmes de télévision, ça l'intéressait pas formidablement, la télévision. Au fond, il était un personnage de télévision, mais il n'était pas un dirigeant de télévision. Il aimait faire ce qu'il aimait, et donc la télévision l'intéressait peu, mais tout le reste d'intéresser beaucoup, les arts plastiques. Il a été représenté partout et curieux de tout. Voilà.
Vous disiez qu'il n'aimait pas la télévision. Pourtant, on se souvient tous de sa première émission de télévision. C'était sur TF1, chaîne que vous avez bien connue, que j'ai bien connue aussi, avec Étoile Étoile. Personne n'a oublié cette émission, Michel.
Non, mais enfin, personne dans notre génération, personne n'a oublié Étoile Étoile. Et puis personne n'a oublié le cinéma de minuit.
Évidemment.
Il présentait des films tout à fait, qui n'étaient pas du tout grand public, à une heure tardive. Et pourtant, beaucoup de gens l'écoutaient. C'était un vrai succès. Et après aussi, c'est tous ces documentaires. Par exemple, le documentaire qu'il a fait avec Valéry Giscard d'Estaing était empreint de part et d'autre, je dois dire, de la part des deux personnages, d'émotions d'histoires partagées, vraiment une grande émotion entre les deux. Ça avait été, je crois, un des plus beaux documents qu'il ait réalisé.
Alors, dernière question, Michel, c'était un homme de lettres qui aimait les mots. Est-ce qu'il y a, je vous lance le pari, trois mots pour définir Frédéric Mitterrand selon vous ?
Pardon.
Je disais que c'était un homme de lettres, un homme de mots. Et je vous demandais trois mots pour définir Frédéric Mitterrand pour terminer cette interview, Michel.
Bienfaisant et triste, je dirais. Bienfaisant et bienveillant. Bienveillant, parce qu'il était toujours bienveillant aux autres. Et moi, je trouvais néanmoins dans son caractère, dans sa vie peut-être, qu'il assumait plus ou moins, quelque chose de triste, de nostalgique, mais qui en faisait un personnage de roman.
Alors, voilà. Bienveillant, triste, il me manque un mot. Justin.
Pardon ?
Bon, je crois qu'on a un petit problème de liaison. Merci en tous les cas, Michel, d'avoir accepté de témoigner ce soir. Merci mille fois. On était très heureux de vous avoir, évidemment. Karima.
Moi, je trouve que le témoignage est très intéressant parce qu'on a parlé, oui, de l'homme politique, mais ce qui ressort, je trouve, je parlais tout à l'heure de ce parcours un peu éclectique, c'est l'exercice de sa liberté aussi. C'est d'être un peu le personnage, finalement, de sa propre vie, d'essayer des choses dans tous ses excès, avec les bonnes choses comme les moins bonnes qui viennent avec. Et justement, à travers les différents rôles, oui, il y avait la trame de fond, c'est l'amour de la culture, l'amour des arts, mais qu'est-ce que c'est, au fond, quand on pense au cinéma, à la télévision, à l'art en tant que tel, c'est toujours un peu ce qui peut être magnifié, c'est un peu l'exubérance et tout ça. Donc, on voit que ça aussi, ça l'attirait, donc cet exercice de liberté. Et pour revenir, par exemple, sur des pans de vie, je lisais par rapport à son livre qu'il avait écrit il y a quelques années, « Mes regrets sont des remords », qui était publié chez Robert Laffont. Lui, il disait finalement que, bon, c'était à tout le moins un sentiment qui faisait progresser. Donc, oui, il y avait des choses, mais au final, c'était l'occasion pour l'être humain, finalement, d'apprendre de ce qu'il avait fait, de bien, de moins bien, et de continuer. Et effectivement, avec, par exemple, le livre sur la mauvaise vie ou des choses comme ça, on se dit, bon, aujourd'hui, ça n'existerait peut-être pas de la même façon. Donc, je suis d'accord aussi avec Alexandre en disant que c'est le témoignage aussi de certaines époques aussi, hein? D'une certaine époque peut-être où il y a eu certains excès. Donc, je trouve que c'est ça, c'est ce parcours qui est intéressant, c'est de s'investir à fond dans chacune de ces missions, par passion aussi, que ce soit pour développer des cinémas, quand il avait décidé de développer, d'acheter des cinémas de répertoire, d'essayer au moins de proposer quelque chose
Je vous propose d'écouter, puisque Michel Cotta nous disait que ce n'était pas un homme politique. Mm-hmm. Écoutez ce qu'il déclarait chez notre ami Pascal Praud quand il parlait de ce milieu qu'est la politique.
Le premier problème, c'est que il n'y a plus autant de gens brillants pour faire de la politique. Pourquoi ? Parce qu'on gagne plus d'argent en faisant des affaires, on a moins de juges qui vous tombent sur l'orable. Je veux dire, c'est un métier épouvantable. Hein, c'est un métier vraiment dangereux et épouvantable, qui détruit la vie familiale, qui détruit tout. Donc les gens les plus brillants, y en a dans la politique, mais moins qu'avant, et ils sont ailleurs.
Alors, Jean-Christophe Florentin, parlez-nous un petit peu du détail de cette interview. C'est une très longue interview et vous le disiez en introduction, il a longuement hésité et c'est sa dernière longue interview. Hein.
C'est la dernière interview.
Qu'est-ce que vous retenez de
ça ? On l'a pas fait exprès.
Interview de...
Bah oui. Bah oui. Et ironie du sort d'ailleurs, il est décédé d'un cancer de la prostate comme son auguste oncle. La malédiction des Mitterrand. Toujours est-il, qu'est-ce qu'on a retenu d'interview ? Bah, qu'il y avait Anita, son beauceron, qui dormait au pied de l'interviewé, de l'intervieweur, qui doit se sentir bien seul aujourd'hui, dans un environnement petit bourgeois, dans un petit appartement très joliment décoré.
Oui, parce que l'interview s'est faite chez lui.
Chez lui. Rien ne laissait deviner qu'il était dans un tel état. Il était très, très virulent, très, très content d'avoir cette interview. C'était son côté punk, je crois. Il était vraiment punk. Le mot a été répété plusieurs fois
plus, hein, pour le
dans l'interview. Et il le revendiquait, on le revendique aussi. Et il n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat, comme le président Sarkozy d'ailleurs l'a rappelé justement tout à l'heure, en disant qu'il avait annoncé sa propre nomination au défi de tout protocole. Et il nous racontait dans le même interview qu'après, une fois en place, il était un ministre actif. Il nous a même confié qu'au Conseil des ministres, où chacun peut avoir l'honneur de faire une communication de temps en temps, lui, il en faisait une systématiquement. Toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, quelque part, c'était...
Côté inclassable, qu'on a souvent évoqué, quoi.
Mais oui, tout à fait.
Quoi d'autre? Quelles sont les confidences qu'il a pu vous faire?
Difficile de vous résumer un interview de 12 pages en quelques mots. Le mieux est d'aller voir de quoi...
Et d'acheter votre revue, c'est ça?
D'acheter ce magnifique magazine de 300 pages, en vente partout. Et non, c'est vraiment étonnant parce qu'on a parlé de tout, des côtés les plus sombres, les plus dark, les plus cachés. Il ne s'interdisait aucun thème. Il parlait vraiment de tout, y compris de ce qui aurait dû être refoulé ou caché ou peut-être honteux. Je sais pas, moi, ce qui m'avait choqué, c'était ce tournage de film porno dans la factory d'Andy Warhol. Mmh. Je pense pas qu'il y ait de quoi en être fier. Lui, si.
Il assumait tout, quoi.
Ah ouais, totalement. Sans filtre.
Qu'est-ce qui vous avait incité à faire un papier sur lui parce qu'il était plus trop dans l'actualité? Pourquoi faire ce focus?
Parce qu'on aime bien surprendre nos lecteurs, donc plutôt que d'aller parler des sempiternels mêmes thèmes que l'ensemble de la presse, on essaye de surprendre, d'être un petit peu disruptif et d'aller voir des gens qu'on va peut-être moins voir et des gens qui ont des choses à dire. Et donc, il cochait toutes ces cases-là.
Toutes les cases.
Il était très playboy compatible et on est content d'avoir fier. Et lui aussi était heureux d'ailleurs de cette
au
interview.
Final, il était content du résultat.
Au final, il était ravi.
D'accord. Éric, je vous ai coupé la parole et je tiens toujours mes engagements. Mille excuses, mais c'était la priorité au témoignage de Michel Cotard.
Je vous en prie, j'ai le son en cloche négatif de ce plateau, mais bon, on fait vivre aussi le débat sur CNews. Voilà. Je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est de parler des côtés dark et de ne jamais les exprimer. C'est intéressant parce que j'ai lu la presse ce soir, y compris même Le Figaro, qui parle beaucoup de Frédéric Mitterrand, qui parle justement de ce fameux livre « Une mauvaise vie » en 2005 et qui, à aucun moment donné, ne dit ce qui est dit. Ça veut dire qu'il fait la propagande de la pédophilie et de la prostitution. Il dit lui-même que ça l'excite en Thaïlande auprès des jeunes. Mmh. Moi, je veux dire, je fais partie de cette génération qui est scandalisée que ça ne l'ait pas disqualifié. Moi, je pense qu'on ne devrait pas, aujourd'hui, au 21e siècle, lui rendre hommage ce soir. Je trouve ça extrêmement scandaleux. Je suis désolé, mais la pédophilie, c'est le sujet, c'est l'impensé aujourd'hui, y compris dans la vie politique. Parce qu'en fait, dès que vous avez parlé de pédophilie auprès de Frédéric Mitterrand, je suis désolé, on va vous dire oui, mais est-ce que vraiment vous pouvez le dire? Vous êtes peut-être homophobe, etc. C'est très compliqué, mais c'est une réalité que ma génération vit, en fait. Hein.
La majorité des jeunes de mon âge. Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a rien eu sur vos propos, évidemment. Je préfère qu'on rende hommage ce soir à l'homme aussi. Oui, mais il n'a pas été condamné, c'est important de le dire.
Non, mais à aucun moment donné, je suis en train de dire qu'il l'a fait. Je suis en train de dire qu'il a fait la propagande dans un livre qu'il a lu, relu, que son éditeur a validé, qu'il a publié. Et évidemment, à un moment donné, il a un rôle qui est important. Donc je pense que c'est fondamental de le souligner. Si ce soir on dit que Frédéric Mitterrand, c'est une référence, qu'on pousse les jeunes demain à aller lire ses livres comme Une mauvaise vie, qu'on se contente de dire c'est un peu dark, ça donne envie un peu d'acheter votre revue et son livre, je suis désolé. Moi je trouve que c'est quelque chose en fait.
Tous les avis sont là pour s'exprimer.
Oui, mais vous savez, on est capable
ce qui
de
est bête, c'est qu'il n'est pas là pour se défendre.
On est capable quand même de condamner la délinquance, y compris auprès de gens qui ne sont pas capables de venir sur un plateau pour en parler. On sort leurs citations. Moi j'aimerais juste qu'on sorte les citations.
L'idée
de ce
c'était
livre,
pas de. Non,
mais
c'est un homme aussi éminemment populaire.
C'est un sujet dont on ne parle jamais et c'est très compliqué d'en parler, mais moi je me sens mal à l'aise et je trouve que c'est un problème aujourd'hui en 2024. Oui, qu'on
enfin, vous
ne pas
résumer Frédéric Mitterrand, c'est ça la
situation. Mais je pense que ça aurait dû se terminer à partir de ce livre en 2005, 20 ans plus tard.
À ce moment-là, il fallait qu'il passe en
cours d'assises. On évoquera les hommages des hommes politiques aussi.
Qu'un président de droite l'ait nommé ministre de la Culture. Je suis désolé, je pense que si en 2027 un président de droite était élu, on ne s'attendrait pas à ce que ça soit l'alias de Frédéric Mitterrand.
On a compris votre message, Éric. Alexandre, s'il vous plaît.
Justement, pour nuancer peut-être ce que dit Éric, même si je peux partager certaines choses, d'une part, c'était un livre. Je fais quand même la différence entre la fiction, même l'autofiction, et la réalité. Justement, je suis pas woke, même s'il y avait une ambiguïté chez lui. Son côté dark, à la limite, me gêne pas en tant que qu'artiste. Bien sûr, s'il a fait des choses condamnables, c'est autre chose, mais il a pas été condamné pour cela. Me gêne pas en tant qu'artiste. Maintenant, est-ce qu'il était vraiment à sa place en politique? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Moi, je suis pas pour la morale, mais c'est vrai que est-ce que c'était bien son rôle? Une dernière chose qui n'a rien à voir et qui me le rendait plutôt sympathique avec le recul. Tout à l'heure, on a parlé de Jack Lang comme ministre qui avait marqué la 5e République et par sa longévité aussi. Je trouve que finalement, Frédéric Mitterrand, avec ce qui était punk, mettait beaucoup moins démago que Jack Lang. Il me semblait imprégné de culture classique, ce qui est pas mal parce que Jack Lang, c'est quand même l'homme qui a nivelé vers le bas et qui a expliqué que tout se valait en matière de culture. Et donc finalement, il avait beau s'appeler Mitterrand, il était moins d'une gauche déconstructrice de ce point de vue-là.
Vous parliez de Jack Lang, les réactions politiques sont nombreuses évidemment ce soir. Réaction de Jack Lang, la mort de Frédéric Mitterrand me bouleverse, une amitié de plus de 60 ans nous liée, une affection inaltérable. Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion et audition et amour. Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément. Autre réaction, c'est la suite de Jack Lang. Par-dessus tout, j'appréciais son intelligence vive, son humour décapant, sa tendresse infinie, sa bonté rare. Frédéric était tout à la fois l'élégance et la passion. Autre réaction, celle de Gérard Larcher. Frédéric Mitterrand, ancien ministre aux multiples casquettes culturelles et voix singulière de la télévision, nous a quittés. Je pense à ses proches et à sa famille. Je pense à ce qu'il laisse à la vie politique française. Autre réaction, celle de Gabriel Attal. Une vie de passion, de talent, de panache. Avec Frédéric Mitterrand, la France perd un homme épris de tout ce qui touchait de près ou de loin la culture, un homme qui avait la soif insatiable d'apprendre et le projet constant de faire. Elle perd un homme de culture totale. Réaction de Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, c'est important. Frédéric Mitterrand portait sa mélancolie comme une élégance. Nous serons nombreux à garder en mémoire le sourire lumineux de Frédéric et l'inimitable grain de sa voix. Je me joins à toutes celles et ceux qui se souviennent aujourd'hui de sa profonde humanité et de son humour. Voilà ce que l'on pouvait dire pour Jack Lang. Merci. Vous avez une minute, Nathan, avant l'information avec Maureen Vidal.
Oui, non, juste une toute petite phrase pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que j'imagine que si je vous demandais ce que vous pensez de la cancel culture, que vous appréciez pas spécialement...
On parle d'enfants, Nathan, on parle pas de
la débat un constat objectif.
On a 25 ans sur la relation...
Oui, mais le colonialisme, c'est pas bien non plus, etc.
Oui, d'accord, mais moi je parle d'enfants...
On fait pas le débat, deux mots.
La cancel culture existe partout. C'est le constat que je voulais faire. Il me semble qu'en effet, quand on parle de quelqu'un qui est décédé... et qui a eu des aspects sombres et des aspects lumineux, il ne faut pas le canceller, ni pour des raisons de gauche, ni pour des raisons de droite, mais il faut essayer de penser cela dans la complexité, dans les ombres et dans les lumières, et que c'est ça ce qui fait l'intérêt d'ailleurs précisément de la culture, et qu'il ne s'agit pas de mettre le cadavre, de cacher la poussière sous le tapis, ou de cacher le cadavre, il ne s'agit pas non plus de vouloir déboulonner systématiquement les statuts et faire de la damnatio memoriae sur tout ce qui pose problème pour une raison X ou Y.
Il est 23h, nous sommes à l'heure, c'est le moment de faire un tour de l'information avec Maureen Vidal que je resalue.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, est décédé à l'âge de 76 ans après une lutte de plusieurs mois contre un cancer agressif, a annoncé sa famille. Neveu de l'ancien président François Mitterrand et ministre sous Nicolas Sarkozy, de nombreux hommages ont déjà été rendus à Frédéric Mitterrand, comme l'actuel ministre de la Culture Rachida Dati dans un long communiqué qui salue et raconte l'accueil chaleureux que lui avait accordé l'ancien ministre et le dernier appel qu'ils avaient échangé ce week-end. Le Sénat s'oppose à la ratification du traité CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Une bonne nouvelle selon le président de la Fédération nationale bovine. Les éleveurs redoutaient notamment l'importation massive de bœufs canadiens sans droit de douane sur le territoire français. Enfin, mieux aider l'Ukraine au cœur des discussions aujourd'hui à Bruxelles où les dirigeants européens se sont réunis en sommet. Les 27 ont abordé plusieurs idées comme l'utilisation des avoirs russes gelés ou encore l'achat groupé d'armes et de munitions. Des discussions importantes qui dureront jusqu'à demain après-midi.
Merci Maureen, on vous retrouve dans 30 minutes avec moi depuis 30 minutes justement Karim Abric, Alexandre Devecchio, Nathan Dever, Eric Tegner, Yohann Hussail et Jean-Christophe Florentin, directeur de la revue Playboy. On va commencer notre dernière heure en évoquant cette affaire pour le moins étonnante. Une quarantaine d'établissements scolaires en France ont reçu hier via un piratage de messagerie interne un courriel au nom de l'État islamique. On pouvait lire une intention de commettre un attentat aujourd'hui dans l'un de ces lycées. Il y avait même une vidéo de décapitation pour le moins sordide. Devant les établissements menacés, la vigilance était de mise. Regardez ce qui se passait aujourd'hui à Sèvres et on ouvre le débat juste après.
Principe de précaution oblige. La police était là ce matin devant le lycée. La veille au soir, une menace d'attentat et une vidéo de décapitation ont été envoyées à une cinquantaine de lycées franciliens, dont celui-ci à Sèvres. Pour la plupart des élèves, la nuit a été difficile. Alors ce matin, la présence policière est particulièrement appréciée.
C'est rassurant de voir que la police est là et qui nous entoure pour veiller à notre protection.
Ça rassure encore plus et ça nous prouve que les lieux ils sont sûrs un peu.
Il y a aussi les équipes de démineurs qui sont venues cette nuit pour chercher les bombes avec des chiens et pour chercher toute trace éventuelle de bombes. Et donc c'est vrai que ça rassure.
Dans cette classe de 35 élèves, il n'était que 13 ce matin à l'appel. D'abord hésitants, ils ont été rassurés par les mails de la direction.
J'ai hésité parce que, comme on le sait, ça peut être un canular, comme ça ne peut ne pas en être un.
Enfin, je pensais aussi que c'était un canular, mais il y avait quand même cette petite part de doute qui pensait que ouais, c'était possible quand même et que... je pensais ne pas aller au lycée même, du coup.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est exprimée sur le sujet.
Les brigades régionales de sécurité sont sur site pour aider à la levée de doutes et à la sécurisation des sites. Je souhaite que les auteurs soient rapidement identifiés et sévèrement sanctionnés.
C'est l'ENT, l'espace numérique de travail, qui a été piraté. La région Île-de-France a annoncé avoir déposé plainte. En attendant, la plateforme a été suspendue.
Jean-Christophe Florentin, j'ai oublié de vous remercier évidemment pour vous être déplacé ce soir à Soir Info. Et je rappelle qu'on peut retrouver votre revue et relire et vous replonger dans l'interview de Frédéric Mitterrand. Et c'est toujours en vente dans tous les kiosques aux quatre coins de France. Merci.
Vous avez bien raison.
Merci beaucoup. Nous sommes avec Greg. Bonsoir Greg. Vous êtes élève au lycée de Sèvres. On vient de voir ce reportage. Je voulais absolument vous avoir. Comment s'est passée la journée, Greg, à Sèvres ?
C'était une journée assez bizarre. Hein. On a vu qu'en classe, on était à peu près une dizaine. Il n'y avait pas tout le monde. Il y avait aussi des professeurs absents. Et on nous a beaucoup parlé de l'événement d'hier.
Et quel est l'état d'esprit ? Il y avait une inquiétude qui régnait devant l'établissement. Racontez-nous.
Oui, il y avait une petite tension, enfin une grosse tension quand même. On a vu qu'il y avait de la police de partout, beaucoup de médias. Donc c'était assez bizarre.
Et Greg, vous avez pu voir cette fameuse vidéo ?
Ouais, j'ai pu la voir. Franchement, c'est une vidéo qui est choquante. On voit deux personnes se faire décapiter. Et je pense que c'était super choquant.
Qu'est-ce que vous êtes dit ? Vous en avez parlé avec vos parents, avec vos professeurs. Comment, racontez-nous un petit peu comment les choses se sont passées aujourd'hui.
Ouais, faut savoir que moi, quand on a reçu le mail, j'étais dehors, je suis rentré du foot. Donc à 21h, je suis passé devant le lycée, j'ai croisé des policiers. J'en ai parlé, ils m'ont dit qu'ils avaient vu la vidéo et qu'il fallait en parler et qu'il ne fallait pas rester silencieux.
Il y a eu des réunions dans votre établissement, je suppose, aujourd'hui. Comment les choses se sont passées ? Comment les choses se sont déroulées, Craig ?
Ouais, on pouvait parler à des psychologues à l'infirmerie pour aider ceux qui avaient vu la vidéo et qui étaient choqués.
Et les cours se sont déroulés ensuite normalement ?
Ouais, tout s'est bien passé quand même.
Mais écoutez, merci en tous les cas, Craig, d'avoir accepté de témoigner. C'était important de vous écouter. Petite réaction, Alexandre Devecchio, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, très concrètement, avec cette menace.
Le problème, c'est que certains pensaient que Samuel Paty serait une exception, qu'il n'y aurait plus jamais ça. Il y a eu Samuel Paty, il y a Dominique Bernard. On voit bien que ça s'inscrit dans un phénomène beaucoup plus ample d'islamisation de la France et où il n'y a plus aucun lieu n'est en quelque sorte un sanctuaire, parce que l'école devrait être un sanctuaire protégé du reste, où on apprend, et aujourd'hui il est investi par les islamistes, et on voit bien qu'on va vers une société qui va être obligée d'être extrêmement sécuritaire, peut-être demain avec des portiques à l'entrée des écoles, et on va peut-être y être obligé, mais je trouve dommage qu'on soit demain sans doute obligé de sacrifier une partie de nos libertés parce qu'on a refusé de traiter la cause de tout cela, qui au départ est quand même un problème d'immigration massive qui nous a conduit à un échec total de l'intégration et aujourd'hui à un phénomène d'islamisation.
Yoann, je vous donne la parole dans quelques instants parce que Gabriel Attal a uni ses troupes aujourd'hui et a fait une déclaration évidemment. Écoutez ce qu'il a déclaré cet après-midi.
Une enquête est ouverte, qu'elle suit son cours et qu'évidemment tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces menaces et évidemment pour les punir le plus sévèrement. Je le rappelle ici à ces auteurs, ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons.
Yoann Usaï.
Oui, il est vrai que l'islamisme dans ce pays est en train de gangréner le pays en réalité, est en train évidemment de gagner du terrain. On l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, les actes antisémites, évidemment, il y a un rapport avec l'islamisme qui est en train de progresser dans ce pays, ça c'est incontestable. Alexandre Devecchio a cité des exemples qui sont frappants et qui effectivement sont en train de se multiplier. Concernant ces faits-là, je serais quand même plus prudent, parce qu'il est vrai que les islamistes qui veulent commettre des attentats, généralement ne les annoncent pas à l'avance, ne publie pas des vidéos avant les attentats montrant des décapitations. Donc il n'est pas impossible qu'il s'agisse soit d'une plaisanterie ou soit d'une tentative de déstabilisation d'une puissance étrangère. Je pense notamment à la Russie, on le sait, qui cherche à déstabiliser le pays, qui l'a déjà fait notamment, hein, avec des actes antisémites commis, en tout cas sous influence russe. Et cela risque évidemment de gagner du terrain à l'approche des Jeux Olympiques, et des puissances ennemies vont profiter de cette période-là pour tenter encore une fois de déstabiliser le pays, avec des forces de l'ordre qui seront déjà occupées à sécuriser les sites olympiques, les rues de la capitale, et qui devront en plus, avec ce genre de menaces, eh bien aller vérifier des alertes à la bombe, aller vérifier ce genre de choses. Donc il n'est pas impossible que ce ne soit pas lié à des islamistes, là en l'occurrence.
Alors justement, nous sommes avec Claude Moniquet, vous connaissez bien, spécialiste des terrorismes et des renseignements. Claude, bonsoir. Alors, la question, est-ce que c'était une vraie menace ou est-ce que c'était une plaisanterie, mon cher Claude, selon vous ?
Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous avons une montée d'islamisme en France qui est inquiétante et qu'il y a un risque terroriste qui est lié à cette montée d'islamisme qui est tout aussi inquiétant. Mais je pense qu'il serait très, très... trop rapide de lier ce qui s'est
passé. Décidément. On a un petit problème de son. On va retrouver Claude Moniquet très, très rapidement. Nathan, quel est votre sentiment ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Premièrement, que l'école publique, l'école républicaine, l'école tout court, soit menacée par l'islamisme, c'est un fait qui est avéré, qui a été mortel dans plusieurs situations pour des professeurs, et qui est la marque du fanatisme. Le fait que quand une religion ou certaines personnes au nom d'une religion se mettent à défendre une vision fanatique, en l'occurrence là dans le cas de l'islamisme, évidemment que l'idée d'une école républicaine, l'idée d'une école ouverte, l'idée d'une école laïque, qui est à la fois ouverte sur les savoirs modernes, qui est à la fois ouverte sur les sciences, qui est ouverte sur la littérature, sur l'histoire. L'histoire, c'est très dangereux pour les religions. Ça met dans la perspective temporelle la formation des dogmes. C'est un objet de détestation profonde. La littérature aussi, parce que la littérature peut exposer, entre autres choses, au mal. Et puis, l'école républicaine comme lieu de la tolérance, comme lieu de l'ouverture et comme lieu, parfois, de l'autodérision. L'esprit Charlie, enfin en tout cas le cours qui avait engendré l'horreur de Samuel Paty. Mais là, en l'occurrence, on peut se poser la question de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, non pas de guerre en France, mais en tout cas de grande rivalité, de grande tension et de grande conflictualité. Au XXIe siècle, la conflictualité ne passe pas que par la guerre militaire. Dans le cas de la Russie, on sait, vous l'avez dit, que quand il y avait eu cette psychose sur les étoiles de David peintes en bleu sur les immeubles juste après le 7 octobre, on sait aujourd'hui que c'était la Russie. Quand il y a eu la psychose en France sur les punaises de lit, et qu'il y a eu sur les réseaux sociaux une énorme frayeur, un peu comme le Covid, où on se disait les punaises, il y en a partout à Paris, que ça a fait baisser le tourisme, que même les médias sont rentrés dans la danse, on a démontré que les services russes étaient liés à cela. Donc on peut se poser la question, on verra ce que dira l'enquête.
Claude Moniquet, qu'on a retrouvé, merci Claude, je vous posais la question, est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux, ou est-ce que c'était une plaisanterie? Quel est votre regard?
Alors, mon regard, c'est plutôt qu'on est en face soit d'un très mauvais canular, soit peut-être d'un règlement de compte lié à une personne qui est peut-être membre de la communauté scolaire. Ça peut être un élève qui cherche à se venger, ou effectivement peut-être une déstabilisation.
Claude, ça a touché quand même un grand nombre d'établissements. Hein. Si c'était juste un jeu, il y a quand même une quarantaine d'établissements en France, hein, quand même. Donc ça demande une certaine organisation, me semble-t-il.
Tout à fait. Ça peut être une déstabilisation, par exemple. Je ne l'exclus pas. Par contre, ce que j'exclus à peu près, c'est une menace islamiste réelle. Le vocabulaire ne correspond pas au vocabulaire habituel des groupes islamistes. La revendication est faite en français. Ils font référence à un explosif, le C4, qui n'a jamais été utilisé par les terroristes islamistes en Europe. Ils utilisent des ATP qu'on peut fabriquer avec des produits en vente libre. On peut d'ailleurs rapprocher cette menace d'une menace qui a été perpétrée contre le Louvre la semaine dernière avec la référence au même explosif C4 et qui s'est avérée être totalement fausse. Donc je pense qu'on est en face de quelque chose qui n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste, même si effectivement ce terrorisme est une menace réelle et importante en France aujourd'hui.
Oui, mais ça demande, Claude, une certaine organisation pour pénétrer les établissements, etc., et diffuser ces vidéos néanmoins.
Ça demande une connaissance des réseaux, les deux réseaux qui ont été utilisés pour diffuser la menace. Ça demande un accès à quelqu'un qui a le compte, puisque quelqu'un a été piraté pour avoir accès, les codes d'accès à ces réseaux. Mais ça peut être soit le fait de quelqu'un qui est à l'intérieur du système, soit effectivement le fait d'un groupe de hackers qui pourrait être lié à un État qui a un intérêt particulier à déstabiliser la France actuellement. Et effectivement, on pense évidemment à la Russie, étant donné les tensions qui existent aujourd'hui entre Paris et Moscou.
Claude, vous allez rester avec nous si vous le voulez bien, parce qu'on va parler d'une autre affaire avec un acte qui est assumé et revendiqué. On va se parler maintenant d'un projet d'attaque contre une église, signe que la menace terroriste est toujours bien présente en France et que, hélas, il va falloir vivre avec. Un homme de 62 ans, partisan de l'idéologie djihadiste, a été interpellé en région parisienne et mis en examen le 8 mars. Explication Mathilde Couler-Fleurnoy et Marie-Victoire Dieudonné. Et on poursuit le débat avec mes invités du soir et vous, Claude Moniquet.
La menace terroriste est toujours présente en France. Un homme de 62 ans a été mis en examen le 8 mars dernier en région parisienne pour association de malfaiteurs terroristes. Partisan de l'idéologie djihadiste, il est soupçonné d'avoir projeté une action violente contre un édifice religieux. Selon nos informations, il s'agirait d'édifices chrétiens. L'enquête a été pilotée par le parquet national antiterroriste. Le suspect a été placé en détention provisoire. Gérald Darmanin a salué cette arrestation.
Bravo à nos services de renseignement et plus largement aux agents du ministère de l'Intérieur qui ont une nouvelle fois interpellé un individu suspecté de préparer un attentat sur notre sol. Merci à eux pour leur vigilance de chaque instant.
Il s'agit du deuxième projet d'action violente déjoué par la DGSI depuis le début de l'année.
Claude, c'est un homme de 62 ans, ça veut dire quoi très concrètement ?
Alors ça, c'est très atypique. Très clairement, depuis assez longtemps maintenant, on est habitué à des djihadistes ou des sympathisants de la cause beaucoup plus jeunes. Il y a 20 ans, le djihadiste moyen, celui qui passait à l'acte, avait entre 30 et 40 ans. Il a rajeuni d'au moins 10 à 15 ans en 20 ans. Aujourd'hui, on arrête des adolescents, on arrête de très jeunes adultes. Un homme de 62 ans qui est prêt à passer à l'action, c'est extrêmement atypique et on est clairement là en face d'une réelle menace terroriste avec quelqu'un dont nous ne connaissons pas, puisqu'on ne connaît pas son identité pour le moment, on ne connaît pas son passé, son historique, mais ce sera très intéressant de savoir effectivement d'où il vient, quel est son passé et quels sont ses liens et éventuellement les délits liés au terrorisme qu'il aurait déjà commis dans le passé.
Et est-ce que selon vous, il a agi seul ?
Ça, c'est impossible à dire à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant et ce qui est important à souligner, c'est que nous continuons à être confrontés à une menace individuelle, celle de, de l'attaque au couteau, celle de la voiture bélier, peut-être celle d'une attaque avec des moyens plus sophistiqués, mais individuels ou en tout petit réseau familial ou de quartier. Mais on a une résurgence depuis plus d'un an des réseaux islamistes organisés et transnationaux. Depuis décembre dernier, depuis octobre, depuis le 7 octobre, on a démantelé en Europe 5 à 6 réseaux qui s'étendaient sur plusieurs pays, entre l'Allemagne et le Danemark, entre la France et la Belgique, entre l'Allemagne et l'Autriche. Et là, on était en face de réseaux structurés de plusieurs personnes qui se coordonnaient au-delà des frontières et qui parfois, et ça c'était une première, pour un des réseaux en tout cas, celui qui a été démantelé entre le Danemark et l'Allemagne, était lié au Hamas. C'est une première, c'est la première fois qu'on a détecté en Europe une cellule opérationnelle terroriste du Hamas.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Claude Moniquet. Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste du terrorisme et du renseignement. Merci, Claude. Éric Tegner, comme le disait Alexandre Devecchio, il va falloir, hélas, vivre avec ces menaces qui sont omniprésentes sur notre terre.
Et vivre surtout de plus en plus jeune avec, hein, parce qu'effectivement, les écoles aujourd'hui sont une des principales cibles, hein, parce que ce soit les Russes ou pas, si les Russes, à un moment donné, ils ne sont pas à l'origine de l'antisémitisme ou de l'islamisme en France, ils choisissent potentiellement de nous cibler sur ce biais-là, c'est qu'ils savent qu'en fait, il y a une réalité aujourd'hui. Ça, il faut quand même le souligner. Il ne faut pas remplacer un ennemi réel implanté sur le territoire par un autre en faisant comme si ce qui est avant n'existe pas. Moi, ce qui me surprend dans le tweet de Gérald Darmanin, c'est qu'il félicite, hein, très bien ses services. Moi, je tiens à souligner quand même que depuis plusieurs mois, il y a énormément de prisonniers qui, au niveau de 2016-2017, avaient été arrêtés pour terroristes, qui souvent ont fait des peines de prison de 5 à 6 ans et qui, depuis fin de l'année 2022, sont libérés aujourd'hui. On le sait, on l'a vu sur l'attentat de Bir Hakeim, que la DGSI a du mal à suivre chaque individu. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui se sont encore plus radicalisés dans les prisons, qui sont encore plus idéologisés. Et effectivement, il y a ce risque aujourd'hui, depuis 7 octobre, du Hamas, mais également demain. Si le Hezbollah rentre dans le conflit, la DGSI expliquait très clairement que dans ce cas-là, eh bien, le risque d'attentat terroriste organisé en France passerait véritablement à une échelle imminente. Et ça, c'est une réalité, avec le fait aussi que depuis le 7 octobre, il y a de plus en plus de radicalisés qui vont considérer que ce n'est pas du terrorisme, que c'est une guerre en fait, que c'est une transposition de la guerre entre le Hamas, les Palestiniens et Israël qui arrivent sur le sol français. Et donc c'est ce qui va permettre d'infuser beaucoup plus au niveau des idées, au niveau de l'opinion. On l'a vu à quel point, au niveau des jeunes lycéens par exemple, l'attaque terroriste, hein, on se rappelle, sur le mot terrorisme, il y a eu des débats, il y en a encore. Près de 45% des jeunes lycéens musulmans soutenaient justement, en tout cas considéraient que ce n'était pas une attaque terroriste par le Hamas le 7 octobre. Donc ça en dit long.
Nathan, deux mots.
Bah oui, il y aurait plus que deux mots à dire. La première, vous avez raison sur un point, c'est que depuis que l'État islamique a été détruit ou quasiment détruit en Irak et en Syrie, qu'il y a eu beaucoup de prisonniers, de djihadistes qui sont devenus prisonniers en France. La question du fait que nous arrivons maintenant en 2024 à la période dans laquelle les gens qui ont été condamnés à des courtes peines commencent en effet à être libérés, c'est une question qui est réelle. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils ont gardé les mêmes idées qu'à l'époque ? Est-ce que ces idées-là se sont intensifiées, sont restées telles quelles, se sont intensifiées ? Est-ce qu'il y a un projet de passage à l'acte qui est imminent ? Toutes ces questions relèvent des services. Mais j'aimerais juste dire une chose quand même, parce que c'est très important. Moi, chaque fois que je vois un projet d'attentat contre quelque chose, une église ou quel que soit le lieu déjoué, on ne se rend pas compte. Mais moi, vraiment, chaque fois j'y pense, je me dis, si ça n'avait pas été le cas, on se retrouverait là à commenter le Bataclan, la promenade des Anglais, Charlie Hebdo, etc. C'est très difficile dans les médias de commenter les catastrophes évitées, parce qu'une catastrophe évitée, ça fait l'objet d'une dépêche de presse, de 5 minutes de débat, et après on passe à autre chose. On oublie le service quand même. Et il faut le dire une chose, c'est que depuis 2017, il y a eu un nombre incroyable d'attentats déjoués, et nous n'avons plus retrouvé l'époque qu'il y avait sous François Hollande, je ne l'accuse pas lui, mais des massacres de masse sur le territoire français. Ça, c'est quand même une donnée qui est absolument centrale.
Deux mots pour terminer sur le sujet, Johan.
Je crains, hélas, d'avoir la réponse poser la réponse à la question posée par Nathan Devers. C'est-à-dire qu'il est évident que les islamistes qui ont été incarcérés n'ont pas changé d'idéologie en prison. Au contraire, ils sont peut-être davantage radicalisés et encore plus motivés pour passer à l'acte. Ils ont sans doute nourri en prison encore davantage de haine contre notre pays. Donc il faut que tout le monde soit bien conscient, et le gouvernement en premier lieu, conscient que l'islamisme est la principale menace pour notre pays et que non seulement l'islamisme ne recule pas, mais est en train de gagner du terrain. Même si les attentats de masse sont heureusement moins nombreux, la menace, hélas, semble quand même revenir progressivement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était exclu il y a quelques années. Aujourd'hui, ça n'est plus totalement exclu. Mais l'islamisme est en train de gagner du terrain et de gangréner progressivement ce pays. Et s'il y a une guerre à livrer, c'est une guerre précisément contre l'islamisme qui est sur notre sol.
Allez, on va parler maintenant de nos agriculteurs. C'est important de ne pas les oublier. On en a déjà parlé hier. C'est le fameux CETA. On va parler du fameux CETA, ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ça vous concerne, ma chère Karim Abrik. Conclu il y a 10 ans, qui a été rejeté ce jeudi par les sénateurs dans un hémicycle pour le moins enflammé. On va en parler avec vous, mon cher Johan. Mais d'abord, rappel des faits. On voit tout ça avec Mathilde Ibanez. Et puis, on sera avec Amélie Robière, qui est vice-présidente de la coordination rurale. Allez, le sujet d'abord.
Les agriculteurs se sont rassemblés aux abords du Sénat pour s'opposer au traité CETA. Un accord de libre-échange controversé entre l'Union européenne et le Canada qui s'applique de façon provisoire depuis 7 ans. Mais pour les agriculteurs, cet accord économique et commercial global est une concurrence déloyale.
Je suis éleveur de viande bovine. Actuellement, tout le monde parle de souveraineté alimentaire, alors qu'on est en train de perdre des producteurs, perdre de la production. Voilà, et pendant ce temps-là, on continue à signer des divers accords de libre-échange pour pouvoir encore importer de la viande bovine, qui va certainement arriver à moins cher.
Lentilles du Canada, elles sont traitées au glyphosate juste avant la récolte, pour faciliter la récolte, pratique qui est strictement interdite en France. Donc ces accords ne protègent ni les paysans, ni les consommateurs.
Ce traité permet une baisse des droits de douane de plus de 90% pour les échanges de biens et de services entre l'Union européenne et le Canada. Le texte prévoit également une réduction des réglementations pour faciliter le commerce, mais aussi il permet aux entreprises européennes d'avoir accès au marché public canadien, y compris ceux des villes et des provinces. Adopté. Un traité rejeté par le Sénat dans un climat très tendu aujourd'hui. Le texte CETA passera ensuite à l'Assemblée nationale pour un nouveau vote qui, en 2019, avait été voté de justesse.
Bonsoir Amélie Robière, vous êtes vice-présidente de la coordination rurale. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Votre réaction sur ce rejet du traité par les sénateurs, ça change quoi? C'est la question que j'ai envie de vous poser.
Rien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça prouve que le Sénat particulièrement a pris note de l'ampleur du mouvement agricole et la fin d'un système. C'est-à-dire que la fin de quel système? La fin des traités de libre-échange et de la concurrence déloyale dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que ce traité ne protégeait ni les consommateurs français ni les producteurs canadiens. Parce que, par exemple, il y a un exemple très concret, c'est que Lactalis, qui achète le lait à perte aux producteurs français, le revendait à prix d'or aux Canadiens grâce à des subventions canadiennes. Donc vous voyez que ça ne profitait pas forcément non plus aux producteurs canadiens. Après, il faut savoir aussi que la viande bovine qui venait du Canada, venir du Canada, était traitée avec des produits interdits en France. Donc vous voyez bien que de toute façon, le consommateur français et le producteur français n'étaient pas protégés non plus.
Alors, j'ai vu que les exportateurs de vins et spiritueux parlent d'un mauvais coup, eux.
Non, mais non, enfin... On n'a pas attendu les traités de libre-échange et le CETA pour faire des échanges de produits. C'est pas parce qu'on produit des produits d'excellence comme les spiritueux, comme le fromage, qu'on a besoin de sacrifier d'un autre côté une production qui est en train de disparaître en France. C'est la loi des marchés. Si vous avez besoin d'exporter du cognac ou du fromage qui est produit nulle part ailleurs, vous n'avez pas besoin de sacrifier la viande bovine qui est produite en France de façon vertueuse.
Merci Amélie Robière d'avoir été notre invitée ce soir et de ses précisions. Alors effectivement, Yohann Usaï, vous me dites, ça ne change rien.
Pour l'instant, le CETA n'est pas mort du tout. Alors là, le Sénat le rejette. le gouvernement a la main. Il peut décider ou non de renvoyer le texte devant l'Assemblée nationale. C'est peu probable parce que le gouvernement n'ayant pas la majorité, il perdrait à nouveau le vote. Il peut décider, le gouvernement, de dire à Bruxelles, d'informer Bruxelles de la décision du Sénat et de dire, eh bien, écoutez, nous en France, nous ne voulons pas du CETA. Le Parlement s'est prononcé. À ce moment-là, ça voudrait dire que le CETA n'est plus valable pour l'ensemble de l'Union européenne, mais a priori, ça n'est pas la volonté du gouvernement. Donc, il est probable que le gouvernement décide de s'asseoir sur le vote du Sénat et de laisser,
en gros,
et de laisser le CETA tel qu'il est aujourd'hui. Parce que le gouvernement considère que le CETA, contrairement au traité du Mercosur, que le CETA est un bon accord de libre-échange. Et donc, le gouvernement n'a pas l'intention, manifestement, de revenir dessus. Donc, le vote du Sénat est à ce stade uniquement symbolique. Il ne change rien. Et à mon avis, il ne changera rien dans la suite.
Je suis obligé de donner la parole à Karima quand même. Vous comprenez ?
Tout à fait.
Vous comprenez pourquoi je donne la parole, évidemment, Karima.
Oui, non, mais je regardais, justement, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de symbolique pour les agriculteurs, sincèrement. Et on entend évidemment la colère, moi je l'entends, la colère des agriculteurs, mais quand on regarde plus largement, il y avait quand même certains avantages pour l'exportation, par exemple, des vins, des fromages. Il y avait une protection aussi pour des appellations contrôlées. On parle de la question du bœuf hein, pour les éleveurs. Les éleveurs, c'est vrai que c'était un vrai enjeu, mais ce qu'on a compris, c'est que dans cette entente-là, ça dépassait, je pense, c'est même pas 3% pour le quota qui était attribué pour la viande de bœuf du Canada. Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a certaines normes européennes, notamment sur la question des hormones. Et c'est vrai que dans certains cas, là, ça ne passait tout simplement pas le test. Donc, les exportations n'étaient tout simplement pas possibles. Alors, je crois que c'est plutôt... Excusez-moi, mais c'est un peu un spectacle aussi, malheureusement. Je pense que les agriculteurs méritent mieux que ça. C'est un message un peu symbolique, mais dans les faits, je suis d'accord aussi avec Yoann, ça ne changera pas grand-chose pour l'instant parce que c'est aussi plus global avec l'Europe.
Et ça ne change pas grand-chose, mais on en parle quand même dans Soir Info.
Oui, il faut en parler.
C'est
parce que...
Non,
mais c'est plus qu'un symbole, ça décrit une réalité. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que la droite a voté contre ce traité de libre-échange. La droite LR, c'est une petite révolution idéologique. Je ne sais pas si ça va durer ou si c'est juste parce qu'on est à la veille des élections européennes.
C'est un bon point pour eux.
D'ailleurs, on peut se demander aussi si le gouvernement est sincère dans son opposition au Mercosur ou si c'est aussi parce qu'on est à la veille des européennes. Après, ce qui est très important, une réalité très importante, finalement, quoi qu'on pense du CETA, on peut considérer que c'est un bon ou un mauvais accord, mais ce que ça montre, c'est que l'Europe et même les dirigeants français s'assoient totalement sur la démocratie et la volonté populaire. Il y a d'abord, on avait signé un traité, on n'a pas consulté la représentation nationale. Là, c'est les communistes qui ont fait une niche parlementaire, qui ont soulevé le problème. Il y a un vote. On s'en fout. Ça rappelle quand même le traité constitutionnel européen, le nom français par référendum, et on continue. Et donc, cette Europe, ça l'éloigne, je crois, mécaniquement des peuples, et ça éloigne aussi les élites qui ont quand même des comptes à rendre à leurs électeurs. Sinon, on supprime le Sénat, on supprime l'Assemblée nationale, on met des technocrates et des experts, et on les laisse faire. Je crois que c'est aussi cette logique-là qui s'est installée politiquement depuis quelques années. Ça explique la colère d'une partie des Français.
Allez, le mot de la fin est très rapide, Eric.
Vous imaginez, ça fait depuis 2007, moi je me rappelle, lors de la présidentielle justement, on parlait énormément du CETA, et en fait ils l'ont mis de côté avec le Covid, etc. Et finalement il faut attendre en fait que les communistes aujourd'hui, comme le dit Alexandre, s'allient avec les Républicains. Donc non seulement aujourd'hui on a un gouvernement qui dit on veut pas de référendum, après qui dit bah, le Parlement finalement on s'en moque de ce qu'ils disent. Quand les gens disent, vous savez, l'Europe, c'est eux qui dirigent, c'est pas la France. Ah, mais vous êtes populiste, vous êtes d'extrême droite, etc. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent les choses sous le tapis. Et ça, en fait, c'est imminemment politique à l'heure des élections européennes, bien entendu. Et comme le disait Alexandre, c'est la même chose. Ils nous montrent là-dessus sur le sujet. Mais surtout un parfum plutôt de soumission, c'est-à-dire qu'on se sent complètement dépossédé de notre capacité à... En fait, même aujourd'hui, moi je me sens proche des élus communistes qui portent ce genre de choses aujourd'hui, et en fait on a l'impression qu'il y a seulement Gabriel Attal, Emmanuel Macron qui en fait ne décident même pas, se contentent juste de dire... On va temporiser. Voilà, parce que de toute façon, c'est l'Europe qui va
décider. Il pourrait décider de dire le Parlement dit non au CETA, donc on arrête. C'est une volonté française. Il n'y a aucune soumission, là, pour le coup. Mm-hmm. C'est le gouvernement qui décide d'appliquer le CETA. Ça n'est pas du tout une obligation européenne. Hein.
Les amis, moi, je décide.
Ils ont peur du budget, là, en ce moment.
Moi, je vais décider. Et je décide que c'est l'heure de l'info. Et l'heure de l'info, c'est avec Maureen Vidal avec une minute de retard. Mille excuses, Maureen.
Je vous en prie, Thierry, il n'y a pas de problème. Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, est décédé à l'âge de 76 ans après une lutte de plusieurs mois contre un cancer agressif, a annoncé sa famille. Neveu de l'ancien président François Mitterrand, ministre sous Nicolas Sarkozy, ce grand cinéphile avait annoncé en avril 2023 être malade, sans en dire davantage. De nombreux hommages ont déjà été rendus à Frédéric Mitterrand. Dans un X, Emmanuel Macron a rappelé la place de la culture dans la vie de l'ancien ministre et adresse ses pensées à ses proches. À la Courneuve, une marche blanche en hommage à Wanis a été organisée aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies en mémoire du jeune homme de 18 ans, mort la semaine dernière lors d'une collision avec une voiture de police. Organisée par la famille, le cortège s'est rendu sur le lieu du drame. La famille demande justice. Le printemps du cinéma débute ce week-end. 5 euros la séance pendant 3 jours partout en France. Cette opération inaugurée en 2000 se déploie à toutes les séances jusqu'à mardi. L'année dernière, la vague inflationniste s'était traduite par une hausse d'un euro du tarif.
Merci beaucoup, ma chère Maureen. Toujours avec moi pour la dernière demi-heure de Soir Info. Karim Abric, Alexandre Devecchio, Nathan Dever, Eric Tegner, Yoann Usaï. Et Yoann Usaï. On va évoquer tout de suite ce sondage CSA pour CNews Europe, un journal du dimanche. On vous a posé une question ô combien sensible qui va susciter évidemment quelques réactions autour de ce plateau, j'en suis persuadé. Avec cette question, êtes-vous favorable à l'utilisation des statistiques ethniques pour lutter contre la délinquance? Regardez la réponse, ça s'affiche avant même que je le dise. C'est formidable, 53% des Français y sont favorables, 35% sont contre. On voit tout ça avec un sujet de la rédaction de CNews et on ouvre le débat juste après. J'ai hâte de vous entendre.
La loi de 1978 sur l'informatique et les libertés interdit les statistiques ethniques en application de la Constitution française. Pourtant, une nouvelle juridiction pourrait être utile pour l'action des politiques publiques en matière de lutte contre la délinquance.
Pour précisément lutter contre les discriminations, pour apprécier le niveau d'intégration de certaines populations issues de l'immigration, ce n'est pas pour discriminer, mais précisément pour lutter contre les discriminations que ces statistiques qui permettraient d'analyser, de quantifier l'immigration avec la délinquance permettrait d'avoir des politiques publiques plus efficaces.
Sur le plan législatif, il suffirait qu'un projet ou qu'une proposition de loi aboutisse pour que les statistiques ethniques soient autorisées.
Il existe quelques exceptions quand même à ces interdictions, mais elles ne sont pas suffisantes. Et le législateur est parfaitement dans son rôle de prévoir et d'encadrer juridiquement ce type de statistiques qui, encore une fois, je le rappelle, est pratiqué dans 22 pays du Conseil de l'Europe, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de raison que la France soit à la traîne sur un sujet aussi sensible et utile pour mener des politiques publiques.
En janvier dernier, Gérald Darmanin a annoncé que 4686 étrangers délinquants ont été reconduits dans leur pays d'origine en 2023.
Johan, alors, réalisable, hors notre réalisable?
En France, ça semble un peu compliqué. C'est un sujet, disons, un peu tabou. Mais néanmoins, on a déjà des éléments. Si vous regardez les prisons françaises, on sait que les étrangers sont très largement et très, très largement surreprésentés dans la population carcérale. On sait que le ministre de l'Intérieur et le président de la République eux-mêmes ont fait un lien entre immigration, délinquance et criminalité. Donc on sait qu'il y a un lien qui est assez évident. Cela dit, pour lutter contre la délinquance, il y a d'autres moyens que les statistiques techniques, si vous voulez. Pour lutter contre la délinquance, déjà, on peut durcir les peines. On peut réviser la Constitution pour tenter d'imposer des peines planchers pour les récidivistes ou pour ceux qui agresseraient des policiers ou tous les représentants de l'État. On peut, si vous voulez, mettre en place d'autres politiques publiques pour lutter contre la délinquance. Il y a beaucoup de choses à faire, si vous voulez. Les statistiques, on les connaît, encore une fois. Mais pour lutter contre la délinquance, on peut, par exemple, appliquer davantage les OQTF. on peut dire que tous les étrangers qui ont commis ne serait-ce qu'un acte de délinquance, eh bien, doivent être renvoyés dans leur pays, appliquer les obligations de quitter le territoire français, et déjà, la délinquance reculera un peu. Alors, il y a aussi, bien sûr, des Français qui sont délinquants, naturellement. Mmh. Et pour cela, il faut durcir les peines, je vous le disais à l'instant, mais déjà, appliquons les lois qui existent, négocions de manière convenable et engagée mm-hmm. avec les pays pour qu'ils reprennent leurs ressortissants qui n'ont rien à faire chez nous, et déjà on aura lutté d'une manière efficace contre la délinquance et la criminalité.
Éric et Nathan et Alexandre, 53% des Français ils sont favorables, c'est pas une surprise.
Non, ça l'est pas, et je pense que c'est pas ce qui va permettre de lutter contre aujourd'hui la délinquance, mais au moins de poser un constat qui est simple. Vous savez, moi j'ai une expérience très concrète. Hier, j'ai passé toute la matinée à la police judiciaire parce que j'étais auditionné. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu dans mon média la féministe Marguerite Stern l'année dernière, qui justement a dit que le problème de l'immigration aujourd'hui, notamment par exemple sur le cas des viols, c'est qu'il y avait une surreprésentation de la délinquance auprès des populations étrangères. Et donc directement, SOS Racisme porte plainte contre elle. Et donc en tant que directeur de la publication, je me retrouve aussi impacté. Donc hier, j'ai dû passer 3 heures devant une policière à débattre de ça. Et donc il fallait que je sorte des chiffres pour montrer tout simplement que oui, c'est une réalité statistique. Et donc, je pense que ça va être important parce qu'en fait, aujourd'hui, on est traité de raciste dès qu'on va poser ce type de constat. Donc, j'ai pu lui expliquer par exemple que dans les Alpes-Maritimes, on voit le préfet, il a choisi de montrer que 53% de la délinquance sur la voie publique à Nice est due par les étrangers, 55% à Cannes. Mais vous savez, déjà, il faudrait un peu plus de transparence au sein du ministère de l'Intérieur parce que toutes les préfectures de France ne le font pas. Et je pense que si les statistiques ethniques permettraient pour le coup d'apporter quelque chose, c'est que la problématique aujourd'hui, c'est que parler d'étrangers ou de nationaux ne suffit plus. On l'a vu lors des émeutes, on l'a vu aussi sur les interpellés de la Courneuve. Aujourd'hui, les jeunes de 16-17 ans qui représentent la majorité de la nouvelle délinquance sont français. On se rappelle de Gérald Darmanin qui disait tout le temps « mais ils sont français, donc c'est pas un problème d'immigration ». Bien entendu que si, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas les statistiques pour essayer d'évaluer, en fait, qui est un français d'origine immigrée. Parce qu'on va nous dire « oui, mais là, c'est inconstitutionnel, vous êtes en train d'établir des français de première zone et des français de seconde zone ». Donc, vous savez, on est déjà très très loin de la possibilité d'avoir un consensus en raison de cette absence de statistiques.
Allez, je vais essayer de faire un petit peu plus court les uns les autres pour que je puisse vous entendre, Nathan essayer. Et Alexandre.
Je vais essayer. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le sondage en lui-même. Les sondages, c'est bien connu, peuvent être non seulement
c'est un
descriptifs.
Sondage, donc, évidemment.
Non, mais justement, les sondages ne sont pas toujours seulement descriptifs, ils peuvent être prescripteurs. Ça veut dire que la formulation d'une question peut orienter les réponses. Là, quand c'est « afin de lutter plus efficacement contre la délinquance, êtes-vous favorable à ceci ?», il y a un présupposé qui est « les statistiques ethniques vont permettre de lutter contre la délinquance ». Si la question avait été « afin de faire augmenter le racisme, êtes-vous favorable à l'utilisation de statistiques ethniques ?», il n'y aurait pas eu soit 53% de Français pour être pour cela. Donc la formulation, déjà, on peut la questionner. Et la deuxième chose...
C'est un sondage CNews, hein.
Ah, pardon.
Oh non, je dis ça, je dis rien. Mais c'est un sondage chez News.
Mais c'est pas. D'accord. C'est les méthodes des sondages en général.
Ne commencez pas à mettre en place notre sondage.
Mais c'est les méthodes des sondages en général.
La News n'aura pas JDD. Hein.
Non, mais d'accord. Mais même, je le dis, je le pense. Je veux dire.
Au revoir.
Je pense qu'il n'y a pas forcément 53% de Français qui sont pour les statistiques ethniques. La deuxième remarque que je ferai.
Excellent sondage.
C'est que. Non, mais non, vraiment. La deuxième remarque que je ferai, c'est que le mot de délinquance, moi, me pose problème. Si vous voulez, c'est une grande catégorie, mais faisons des statistiques ethniques sur la fraude fiscale. Est-ce qu'on va voir une surreprésentation des étrangers en France ? Faisons des statistiques ethniques sur les violences, les viols par exemple. Mmh. La majorité des viols sont dus à des viols qui sont intrafamiliaux ou faits par des proches. Est-ce qu'on va voir une surreprésentation des étrangers ? Etc, etc. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, l'introduction de statistiques ethniques dans le débat public, on sait très bien à quoi ça va conduire. Ça va conduire à faire augmenter la quantité d'opinions racistes sur les analyses concernant la délinquance. Tout le monde le sait, et comme le disait Johan, il y a d'autres moyens très aussi utiles, et pas forcément laxistes, pour lutter contre la délinquance.
Moi, je suis...
Alexandre, et Karima veut s'exprimer.
Je ne suis pas d'accord forcément sur le fait que la conséquence des statistiques ethniques qui va faire augmenter le racisme. J'ai le souvenir que les statistiques ethniques sont utilisées dans les pays, et c'est pour ça que je m'en méfie, dans les pays anglo-saxons, et peut-être que Karima va me rejoindre sur le Canada. Et ça a été un outil pour les progressistes ou les pseudo-progressistes pour faire de la discrimination positive, des quotas à Tarnaïgo. C'est pour ça que je suis assez ambigu. D'un côté, je suis favorable à la science, donc je pense que faire savoir un certain nombre de choses, pourquoi ne pas faire des statistiques ethniques comme on en fait sur d'autres sujets, mais je me méfie de l'utilisation qui va être faite, et ça va être, à mon avis, pas du tout pour lutter contre la délinquance. On peut déjà faire des statistiques sur la nationalité, remontons s'il le faut aux parents ou aux arrière-grands-parents pour poser la question très clairement de l'intégration, voir si elle est réussie ou pas, mais voilà, je suis pas forcément favorable à ça, d'autant plus que c'est pas un problème de couleur de peau, c'est un problème culturel et un problème d'intégration. Voilà. Et faisons confiance aux Français pour être intelligents et ne croyons pas que parce qu'il y aura des statistiques ethniques, ils vont devenir racistes.
Et Karim, le mot de la fin, parce que j'aimerais vous faire réagir en dernier sujet sur une petite communication de Sandrine Rousseau en guise de conclusion.
Non, je sais que c'est un sujet tabou en France. Au Canada, ça existe, les statistiques qu'on dit ici ethniques, c'est-à-dire que lors du recensement, il y a ces informations. Et d'ailleurs, vous avez dit, Alexandre, que ça sert... En fait, ça sert quoi? Ça sert à tracer le portrait, finalement, le plus juste d'un pays, de son évolution et tout ça. Et les statistiques, ensuite, sont disponibles pour des chercheurs, pour quoi que ce soit. Et pour le Canada, ça le dit, et je suis allée même sur le site du gouvernement, et ça dit, ces renseignements servent de nos jours à appuyer la loi sur le multiculturalisme canadien, la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est toutes les questions aussi en lien, par exemple, on a parlé tout à l'heure, la question, c'était afin de lutter plus efficacement contre la délinquance, mais il y a aussi, et certains vont dire, oui, bien, sur les questions, par exemple, du chômage, sur les questions des revenus, sur les questions du parcours de vie, l'éducation. Donc, tout ça, il peut avoir, vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, dépendamment sous quel angle on se place et dépendamment dans quelle idéologie on est. Les faits, ce sont les faits. Je pense qu'il faut respecter les faits. Et ensuite, les interprétations, ça peut aller dans différentes directions. Mais ce que ça sert à faire, ça dresse un portrait, oui, factuel, mais ça fait aussi taire les mensonges aussi. Donc, ça indique une réalité.
Allez, on termine par cette information. Vous savez quoi? On fait moins de bébés dans le monde. On fait moins de bébés. Alors, je vais vous montrer.
En France, il y a
une baisse aussi. Il y a une baisse aussi.
Ah oui.
Oui, oui. Et regardez ce que tweet Sandrine Rousseau. J'ai envie de vous faire réagir et ce sera notre sujet de fin. Sandrine Rousseau qui se réjouit, la baisse de la fécondité est une bonne nouvelle. En 1970, la population mondiale était de 3 milliards. Aujourd'hui, elle a triplé. La natalité ne peut pas être une priorité en situation de grand danger écologique. Allez, on termine par ça.
Bon, elle parle du danger écologique, mais quand on connaît un peu les idées de Sandrine Rousseau, je ne suis pas sûr que ce soit sa principale préoccupation. Si vous voulez, moi, je pense qu'on peut parfaitement être une femme sans être une mère et inversement, mais on a l'impression que Sandrine Rousseau pense que les mères ne sont pas tout à fait des femmes et que finalement, il faut se passer des hommes et il faut se passer de la procréation. Moi, je pense que quand on lit Sandrine Rousseau et quand on voit son raisonnement à répétition, c'est ça. Je trouve que c'est pas très positif. Par ailleurs, oui, on a aussi besoin d'enfants et de démographie parce que c'est comme ça qu'on transmet notre culture. C'est comme ça qu'on survit à travers l'histoire.
Bon, on fait moins de bébés en France.
C'est pas forcément une bonne nouvelle l'hiver démographique.
Non, mais Sandrine Rousseau
s'en réjouit.
Sandrine Rousseau milite pour la décroissance. C'est extrêmement clair. Je veux dire, un pays qui ne renouvelle pas sa population, un pays qui, au fil des années, a de moins en moins d'habitants, est un pays qui d'abord est appelé à disparaître, mais qui en plus régresse économiquement, si vous voulez. Donc, c'est un pays qui s'appauvrit. Mais c'est une militante de cela. Donc, on le sait, il n'y a pas de surprise. Néanmoins, c'est un peu ironique quand on sait qu'elle a 4 enfants, si vous voulez. Donc, voilà un peu. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà.
Allez, carrément. Très rapide. Non,
je pense que c'est un choix, effectivement, qui est personnel et que je respecte totalement d'en avoir ou pas, d'avoir d'enfants. C'est pas ça la question. Je pense de se réjouir, par exemple, qu'en France ou dans les pays, peu importe où, il y a une baisse de fécondité. Je pense que faut se poser la question. Moi, je pense que c'est problématique parce que ça dit plutôt pourquoi les gens décident de ne pas en avoir. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par ils ont peur de la catastrophe écologique? Est-ce parce qu'ils ont peur de ne pas être capables d'acheter ou de louer une propriété? Est-ce que c'est parce qu'ils ont dans une grande inquiétude. Et il y a aussi tous les facteurs environnementaux qui font en sorte aussi que...
Mais non, mais c'est parce que Sandrine Rousseau dit, mais si on ne fait pas suffisamment d'enfants en France, c'est pas grave, on en fera venir d'Afrique. Oui. C'est ça son projet politique en réalité.
Allez, deux mots pour terminer, vraiment rapidement.
Bien sûr, Eric et Nathan. La natalité même au sein de l'Europe, par exemple, on dissocie les populations musulmanes des populations plutôt chrétiennes. On sait très bien que c'est 2,5 enfants par femme auprès des musulmans qui sont en France et plutôt autour de 1,6 pour les autres. Moi, effectivement, je rejoins Karima, c'est-à-dire que l'inquiétude aujourd'hui, si les gens ne font pas d'enfants, c'est parce qu'ils retardent le plus tard possible la possibilité de le faire, parce qu'ils sont inquiets. Moi, je suis de cette génération, ils ont peur des questions sociales. On leur vend aussi un monde à chaque fois qui est catastrophique, comme le dépeint Sandrine Rousseau. Et le jour où ils veulent en faire, eh bien, il y a un problème aussi de fertilité. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui veulent le faire et qui ne peuvent plus.
Nathan, deux mots, parce que j'ai revu de près juste après.
Ah, en un mot, je pense que la question de l'augmentation de la population, en effet, ça peut être une vraie question, mais à l'échelle internationale et mondiale, de se dire à quoi ressemblerait un monde avec 15, 20 milliards d'habitants. Mais à l'échelle nationale, ça ne peut pas se poser, parce que si un pays décide tout seul de mener une politique de dénatalité, c'est aberrant d'un point de vue économique, d'un point de vue même de son avenir dans le monde. Mais en revanche, à l'échelle mondiale, c'est une question évidemment importante.
Allez, on termine par la revue de presse. On va commencer par le Figaro. Alors, il n'y a pas Frédéric Mitterrand à la une du Figaro, hein, mais
émission. La nouvelle est tombée trop tard.
Oui, je dis rien.
Assez tôt. Mais il est sur notre site internet. On nous l'a d'ailleurs, Éric Tegner nous l'a limite
proposé. Voilà, je dis rien. Mais en revanche, à la une aujourd'hui en France, Frédéric Mitterrand, une vie au service de la culture avec à côté les nouvelles brigades anti-drogue du net. Ouest-France, face au déficit budgétaire, l'inquiétude des élus locaux et à la droite, l'ancien ministre Frédéric est mort, je dis ça, Alexandre. Et à la une des DNA, les DNA d'Alsace, Deschamps à sa liste en tête. Et oui, il y a Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, qui est mort. Voilà.
Et il travaille plus qu'au Figaro, qu'est-ce que vous voulez plus tard?
J'ai rien dit. On termine avec le QR code, évidemment, qui va s'afficher quelque part sur notre écran. Voilà, vous l'avez ici. Si vous voulez tout savoir sur notre chaîne, vous scannez avec votre téléphone et vous saurez tout sur CNews. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir. Merci mille fois, merci pour votre fidélité. Merci à Martin Mazur, Céline Génaud, Laure Parra, Geoffroy Gonard. Merci à la programmation Magdalena Dervis. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre, je l'ai dit, cette émission sur notre site. Tout de suite, place au journal de la nuit. C'est avec Mathieu Devez, me semble-t-il. Et moi, je vous dis bye bye. À demain, je vous retrouve pour Midi News à partir de midi. La lumière sera allumée. Je compte sur vous. Bye bye. Belle soirée.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.